grâce et la paix sont avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul commençait souvent ses lettres, combinant la salutation traditionnelle des Grecs, charis min, grâce à vous, et la salutation traditionnelle des Juifs, shalom alerem, paix avec vous. Par cette expression, Paul voulait s'adresser aux Juifs et aux Grecs, à ceux qui se considéraient dans la maison de Dieu et à ceux qui restaient plutôt dans le grand large de l'universel. Et en commençant ainsi notre culte, nous voulons signifier que nous sommes héritiers de ces deux messages, celui de la paix du Premier Testament et celui de la grâce du Second Testament. Mais aussi que ce message s'adresse à ceux qui se trouvent bien dans la sphère de la religion et du christianisme, comme à ceux qui se trouvent bien à l'extérieur. Donc, qui que vous soyez, où que vous soyez, dans ce temple ou au loin par l'intermédiaire des réseaux sociaux, quel que soit votre chemin de vie, la grâce et la paix sont avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère. Je voudrais souhaiter particulièrement la bienvenue aujourd'hui à une équipe de la télévision protestante italienne qui va donc prendre quelques images de ce culte et interroger quelques personnes. Nous devons bien sûr cette présence à Marco qui est parmi nous cette année. Et puis aussi signaler qu'un certain nombre de nos amis, une petite dizaine, sont en ce moment pas très loin, juste au deuxième étage, en train de préparer le repas du CASP, le repas où deux fois par an, nous accueillons des personnes démunies, accompagnées et invitées par le CASP. Donc voilà, deux choses que je voulais dire avant que nous entrions maintenant dans la prière. Notre Dieu, nous t'invoquons. Toi, Dieu qui viens, Dieu qui appelle, Dieu vivant qui se met en quête de l'humain et le vivifie. Car tu es le chemin bien plus que le but, la marche plutôt que l'horizon, l'eau et le pain plus que la satiété. Nous t'invoquons, toi qui nous surprends dans nos habitudes, qui nous reprend dans nos déroutes, qui nous trouve dans nos égarements. Que dans ce temps de culte, nous comprenions par ton souffle et ta parole comment voyager notre vie, le cœur en alerte, l'esprit en éveil, comme celles et ceux qui ont encore à s'enchanter d'être sur la terre des vivants. Amen. Nous restons debout pour le temps de la louange et je vous propose d'entrer pour cette louange dans cette adaptation du psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur, Éternel. Devant Dieu, je te chante. Je m'incline devant le palais de ta sainteté et je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu as rendu grande ta parole, plus que tous tes noms. Pendant le jour, j'ai crié vers toi et tu m'as répondu. Tu m'as élevé, et dans mon âme, dans ma vie, c'est la force. Ils te célébreront, Éternel, tous ceux qui sont puissants sur la terre, car ils écoutent les paroles de ta bouche, et ils chantent des cantiques sur les sentiers de l'Éternel, car elle est grande, la gloire de l'Éternel. Car l'Éternel est élevé, et il voit celui qui est abaissé, et celui qui est arrogant, c'est de loin qu'il le connaît. Quand je vais au milieu de la détresse, tu me fais vivre. Sur la colère de mes ennemis, tu étends ta main et ta droite me sauve. L'Éternel mène tout à l'accomplissement pour moi. Éternel, ton amour est pour toujours. Ce que tu as fait de tes mains, tu ne l'abandonnes pas. Amen. Et c'est avec un autre psaume, le psaume 47, que nous chantons en entier, frappé dans vos mains, que nous poursuivons cette louange. Nous écouterons la volonté de Dieu pour nos vies à travers ces quelques versets de l'épître de Paul aux Philippiens. S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour, une communion dans l'esprit, un élan d'affection et de compassion, alors comblez ma joie en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ.
Thank you.
recueillons humblement, chacun et ensemble, et nous nous présentons tels que nous sommes devant Dieu. Je vous invite à prier. Comme un manteau de miséricorde, que vienne sur nous la paix, ton insondable paix. Qu'elle vienne calmer en nous toute frayeur et nous trouve tranquilles et rassemblés tout au fond de nous-mêmes. Car tu viens, aujourd'hui comme hier, jusqu'au cœur de nos hésitations et de nos troubles. Comme un manteau de miséricorde, que vienne sur nous ta paix, ton insondable paix. Car tu n'éteins pas la mèche qui brûle encore, tu ne brises pas le roseau froissé, tu redresses ce qui est courbé, tu rends la vue à l'aveugle. Aux extrêmes de toute souffrance, tu as voulu prendre ta place. Émerge du fond de nos tourments, ta vie plus forte que nos morts. Nous aspirons à cette paix, cette insondable paix qui fait le tour des choses, qui fait le tour des mondes. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. À la croix, l'amour a étendu les bras, et à Pâques, la mort a baissé les bras. Toute existence se reçoit de cette offrande où la mort est abolie par l'amour. Et si vous avez faim d'amour, de pardon, de vie, Dieu vous les donne et vous les donne en abondance. Amen. Et nous chanterons au cantique 284, Ta volonté, Seigneur mon Dieu.
Thank you.
Prenez place. Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Éternel notre Dieu, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole accomplisse ta volonté en nous, qu'elle féconde notre vie, que ta parole soit la vérité de notre existence, la lampe sur nos chemins. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Jour de commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et aucun traité de paix n'a été signé à l'issue de cette épouvantable guerre. Alors je vous propose aujourd'hui de méditer sur des textes bibliques au sujet de la paix. En ces jours où la guerre tonne à nouveau en Europe et où de multiples inquiétudes pour l'avenir montent dans bien des esprits. Et le premier des textes, je vous en proposerai deux. Le premier se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 5, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Ésaïe, chapitre 2, versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. » Il nous enseignera ses voies. Et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Puis dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine. Alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par peur des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit « Paix avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau « Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » C'est la première parole du Christ ressuscité à ses disciples dans l'Évangile de Jean. Paix à vous. Il s'adresse à ses disciples rassemblés dans un endroit bien fermé parce qu'ils ont peur des Juifs, écrit l'évangéliste. Et la scène est donc située à Jérusalem, la ville de la paix, celle évoquée par le prophète Ésaïe dans une vision qui montre les peuples de la terre convergeant vers la ville pour y entendre la parole de l'Éternel. Mais ces jours pour les disciples à Jérusalem sont bien différents des jours indiqués par Ésaïe, car ce sont des jours sombres, marqués par la violence, par la mort en croix de Jésus de Nazareth, par la peur de subir cette même violence en tant que disciple du Nazaréen. Des jours sombres. Et d'ailleurs, Jean écrit que c'est le soir. La nuit tombe, l'obscurité se répand, les ténèbres dominent. C'est le temps où l'on ne voit plus ni dans l'espace ni dans le temps. On ne voit plus où l'on est, ni où on va, ni ce qui est là, ni ce qui vient. La nuit du monde, comme celle où beaucoup de nos contemporains se sentent, et peut-être nous-mêmes nous sentons plongés et environnés de ténèbres, de menaces, étreints d'angoisse, de frayeur, d'anxiété, et coincés, enfermés dans une peur difficile ou impossible à maîtriser. Les portes sont verrouillées, et j'en écris pas que ce sont les disciples qui les ont bien fermées. Et ce qui nous fait comprendre, et ce peut être une expérience de l'un ou l'autre, que la peur peut nous emprisonner sans que nous le voulions. Nous ne choisissons pas toujours d'être enfermés, d'être empêchés de cheminer ou de nous épanouir. Peur des Juifs, selon l'évangéliste, mais ce qui se joue là n'a rien à voir avec un regard négatif sur le judaïsme. Souvenons-nous que Jésus lui-même était juif. Cette peur, c'est profondément la peur d'une menace portée par ceux qui se livrent à l'usage de la force et de la violence, du pouvoir et des armes qui ne sont pas toujours des épées et des lances, des missiles et des drones, mais qui peuvent être utilisés dans bien d'autres lieux par bien d'autres moyens. Alors les disciples se sont mis à l'abri, un peu, un temps. Mais de ces abris-là, il faut bien toujours sortir à un moment et se retrouver à nouveau exposé au danger. La peur peut conduire à fuir, à chercher un lieu à l'écart, à s'extraire du tumulte, comme elle peut à son tour conduire à la violence, dérivant en haine de ce qui fait peur ou de ceux qui font peur. Comment cela peut-il s'arrêter? Cependant, ce soir-là, c'est aussi le soir du premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine, écrit Jean. Et le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de la création. Le jour où la lumière advient au milieu des ténèbres, à travers les ténèbres, ainsi que nous le lisons dans le premier chapitre du livre de la Genèse. Et le ressuscité survient au milieu du groupe des disciples enfermés, reclus, confinés dans leur peur. Et avec lui survient la paix. La paix fait irruption. Paix à vous. Ce n'est pas un souhait, comme le laisse entendre la formule traditionnelle « Que la paix soit avec vous ». La paix est là, vraiment là, dans cette présence qui se joue des murs et des portes closes. Le Christ vivant est venu à l'aide des disciples, à leur secours. Il est venu les sauver, parce que les disciples eux-mêmes ne pouvaient rien faire, ligotés dans la peur comme ils l'étaient. Nous ne pouvons pas toujours échapper tout seuls à ce qui nous enferme ou aux peurs qui nous étreignent. Il faut que le secours nous vienne d'autres personnes, ou même d'ailleurs que de ce monde, de la transcendance qui donne sens à l'ensemble et qui alors se fait proche. Paix à vous. Ce n'est pas la fin d'un conflit entre des adversaires, entre des armées. Ce n'est pas une paix à négocier, à signer par un traité qui pourrait être bafoué un peu plus tard. C'est la paix intérieure d'un être libéré du poids de la peur et de la haine, libéré du passé qui pèse, libéré de la faute qui enchaîne. Car de ses disciples, certains avaient fui, avaient renié, s'étaient tenus à distance du procès et de la croix. Le Christ n'exprime aucun reproche, aucune condamnation. Il ne leur en veut pas. Lui, il les retrouve là où ils sont, là où ils en sont, enfermés dans leur peur. Une reprise de présence et d'amour pour laquelle les disciples n'ont pas eu à faire le moindre effort pour le rejoindre lui, par exemple. Parce que c'est lui qui vient. C'est toujours lui qui vient. En passant les murs et les portes closes, à l'intérieur de nos obscurités, de nos confusions, de nos ambiguïtés et de nos limites, comme un murmure qui chuchoterait au creux de l'âme, « Tu n'es pas perdu, tu n'es pas fini. » C'est une paix comme un pardon, comme une délivrance, une paix comme une guérison, comme une grâce, et c'est une œuvre divine de restauration, de recréation, de résurrection et d'humanité. Il n'est pas d'autre paix que celle qui commence en soi-même, qui dénoue les liens intérieurs de la peur, de la rancune, de la haine, de la honte. Et le prophète Ésaïe le disait déjà à sa manière. Car la paix qu'il évoque ne commence pas par cette transformation des armes en outils, des épées en socs de charrue. La paix commence par l'écoute de la loi, de la Torah, c'est-à-dire de ce que l'Éternel veut enseigner, ce dont il veut instruire son peuple et tous les peuples. Il ne s'agit pas là de la somme de prescriptions au sujet de ce qu'il faut précisément faire ou ne pas faire au quotidien ou dans des circonstances particulières. La loi, la Torah, la parole divine ne vise pas à la soumission de l'être, mais à son édification et même à son élévation. Élévation pas vers un surêtre augmenté, mais vers l'humanité véritable, l'humanité en plénitude, qui est ainsi à la fois une promesse et un don, un horizon et un chemin. C'est bien ce qu'a fait Jésus de Nazareth, avec la Samaritaine et l'aveugle de naissance, avec le paralytique à la piscine de Bethesda et la femme adultère, et aussi en lavant les pieds de ses disciples. Une œuvre de restauration et d'élévation, et qui a provoqué la colère et la haine des hommes de pouvoir qui préfèrent les systèmes de domination aux dynamiques d'affranchissement. La paix commence par l'écoute de la parole de Dieu, qui sort de Jérusalem parce que Jérusalem, c'est la ville du Temple, la ville de la présence de l'Éternel. La paix de la vision d'Ésaïe, c'est la conséquence d'une transformation de l'esprit des peuples, une transformation de l'esprit humain qui, sans l'aide de cette parole divine, ne sait pas renoncer à l'usage de la force. Avant la destruction des armes, il faut l'ouverture de l'âme. Et alors la réconciliation et la paix sont possibles. L'Éternel sera l'arbitre d'une multitude de nations. Il résoudra les différends entre les peuples, entre les personnes. C'est-à-dire que l'âme éclairée, l'esprit éveillé par la parole divine, l'humain regarde et comprend et vit autrement son humanité et ses relations. La centralité et le caractère essentiel de la parole de Dieu dans la vision du prophète se retrouvent dans la présence du Christ qui surgit là au milieu de ses disciples. Ce Christ dont l'évangile de Jean commence par déclarer dans son premier chapitre qu'il est parole de Dieu faite chair. L'écoute de la parole, c'est cette Jérusalem d'Ésaïe, que ce soit à Jérusalem ou n'importe où ailleurs dans le monde. Et de même que la perspective de la vision d'Ésaïe est universelle, de même la paix qui survient avec le Christ est pour tous, car il peut y avoir différents noms donnés à la transcendance qui oriente l'existence dans la justice et dans la paix et pour la vie en plénitude. et peut-être même pas de nom particulier qui lui soit donné. Il peut y avoir différentes traditions permettant de comprendre et d'entrer en relation avec cette transcendance, d'en être nourri et animé et de devenir ainsi humain, puisqu'être humain, ce n'est jamais seulement une question de biologie, mais une question spirituelle. Et le Christ est le nom donné à la puissance de transformation, de restauration, de recréation, de résurrection de cette transcendance qu'ici nous nommons Dieu éternel ou notre Père ou d'autres noms encore. Le Christ n'est pas réservé au christianisme ni aux chrétiens. Et lorsque cette dynamique est présente dans les discussions de paix du monde, alors la paix a vraiment des chances de l'être véritablement. La paix advient dans la présence du Christ qui libère les disciples enfermés, diminués, rétrécis dans leur peur et qui les relève dans la paix. La Torah, la loi, l'évangile fondent et orientent une manière, une qualité d'être que les récits des évangiles nomment aussi le règne de Dieu. Une qualité d'être avec et pour autrui, en particulier la veuve, l'orphelin, l'étranger, le malade, le pauvre, l'exclu. Une qualité d'être en solidarité, en respect, en fraternité, appuyée sur la justice et la paix dans la Bible hébraïque, sur la grâce et la paix dans le Nouveau Testament, ou encore, pour l'un et l'autre testament, sur l'amour. La paix que porte le Christ ressuscité n'efface pas la crucifixion. Il leur montre ses mains et son côté, les marques de la souffrance et de la mort, de l'injustice et de la violence. Et comme il y en a tant, aujourd'hui comme hier, de souffrance et de mort, d'injustice et de violence, eh bien, les disciples sont envoyés. Et nous sommes envoyés, porteurs de grâce et de paix, et portés par l'esprit, le souffle, l'énergie de la création et de notre inspiration. Envoyés comme le Christ l'a été pour faire œuvre de réconciliation, de guérison, de restauration, en paix. C'est notre vocation. Et c'est-à-dire que nous en sommes capables, chacun avec sa personnalité, ses moyens et selon les circonstances. Et à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Bien sûr, mais ne nous trompons pas. Nous sommes envoyés poursuivre auprès de nos contemporains l'œuvre du Christ, et cette œuvre-là, c'est une œuvre de pardon, de libération, d'élévation, comme il l'a accompli avec le centurion romain, avec l'aveugle Bartimée, avec Marthe, avec Pierre. Jamais Jésus le Christ n'a enfermé quiconque dans le malheur, ni privé qui que ce soit de sa présence bienfaisante, ni refusé de sauver qui le lui demandait. Nous n'avons pas à nous ériger en juge. Si nous n'apportons pas, si nous n'allons pas en paix, si nous ne pardonnons pas, oui, ceux à qui nous ne pardonnerons pas resteront ligotés. Et ce sera de notre faute à ce moment-là. Nous sommes envoyés pour délier, pour élargir, pour ouvrir des portes en vivant cette paix donnée, en témoin de la parole fondatrice d'humanité, de l'évangile de grâce, de l'aube du premier jour dans la nuit de ce monde. Amen. Thank you. Voici le moment de confesser la foi. Je vous invite à vous lever, à vous associer du cœur, si vous le souhaitez, à cette expression particulière. Nous croyons en Dieu, présence divine, douce et aimante, fondement de notre être. Nous croyons en Jésus, le Christ qui nous a révélé l'amour de Dieu et qui exhortait ses disciples à exprimer cet amour dans leur vie quotidienne. Nous croyons au Saint-Esprit, présence continuée de Dieu dans notre monde qui nous entoure de compassion et d'amour. Nous croyons l'Église où l'on se rassemble pour apprendre à connaître Dieu et pour le louer, pour partager notre souci les uns pour les autres et pour le monde, et pour apporter justice et guérison à toute la création de Dieu. Amen. Des annonces à partager en ce dimanche 8 mai. D'abord, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, mais je le redis, le repas du CASP est organisé aujourd'hui par l'entraide du Foyer de l'âme. Il y a toute une équipe qui s'est réunie déjà hier et encore aujourd'hui pour préparer ce repas, préparer la salle afin que les personnes invitées se sentent vraiment accueillies, se sentent vraiment aimées, entouré, accompagné, et il y aura comme ça tout un bon repas et un bon moment, de bons moments d'échange avec elle jusque dans l'après-midi. Alors merci à tous les bénévoles qui se sont engagés pour cette préparation et cette participation au repas. Comme chaque dimanche, c'est aussi la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, et merci d'y penser. Cette collecte a lieu tous les dimanches au Foyer de l'âme. Des produits non périssables, bien sûr, nourriture, entretien, hygiène. Il y a une liste qui, je crois, va certainement changer la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, il faudra renouveler les achats. Dans la semaine, il y a beaucoup de choses cette semaine. D'abord, une annonce de nos amis de l'oratoire, puisque lundi à 20h, demain, il y aura à l'oratoire Olivier Abel, le professeur Olivier Abel, qui viendra parler de son dernier livre sorti, un ouvrage intitulé « De l'humiliation ». C'est un livre remarquable, et donc Olivier Abel sera questionné. Il y aura un entretien avec la pasteur Cléro Mazir, et puis je pense aussi l'Assemblée qui sera là. Mardi, le 10, il y aura d'abord une réunion du bureau du Conseil presbytéral à 9h. Il y aura la pause biblique à 11h30, et nous partagerons non seulement un excellent repas préparé par Nicole, mais aussi la lecture du psaume 88. Et puis mardi toujours à 19h30, ce sera la réunion du groupe des jeunes adultes du Foyer de l'âme. Et ce sera une rencontre autour d'un texte biblique cette fois-ci, les béatitudes de l'évangile selon Matthieu. Mardi 11, ce sera le jour du ciné-club. Donc je laisse la parole à Didier. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là, bah oui, bah non, bien sûr, c'est mercredi 11.
Bonjour, bonjour. Donc, mercredi prochain à 18h30, donc le cinéma du Foyer de l'âme. C'est le cycle Le christianisme au cinéma. Donc, ce sera Ma nuit chez Maude d'Éric Romer avec Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian. Je pensais que ce film était bien connu, mais on m'a fait quelques remarques disant qu'apparemment il n'est pas aussi bien connu que ça. Ça a été un grand succès pourtant à l'époque. Le premier grand succès d'Éric Rohmer. Alors si vous connaissez Éric Rohmer, ben, vous allez venir redécouvrir Manu chez Maud. Si vous ne le connaissez pas ou si vous imaginez que c'est un cinéaste intello et rasoir, eh bien venez, vous verrez que ce n'est pas le cas, que c'est un cinéma intelligent, certes, mais ironique, malgré un côté un peu minimaliste sur la forme. Et là, il y a quand même Jean-Louis Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault et Antoine Vitez. Je crois que c'est le seul film où joue Antoine Vitez, qui était un grand homme de théâtre. Mercredi, 18h30.
Jeudi, la pause spirituelle de 11h30 à 12h30 dans le temple. Vendredi 13, ce sera la réunion du groupe Théo et Psycho en présence. Donc dans la salle du second, nous avons juste commencé la dernière fois la lecture d'un livre de Lita Basset qui s'appelle « Face à la perversion ». Et bien sûr, cette réunion, comme toutes les autres, est ouverte à tous ceux qui souhaitent participer. Samedi 14, il y aura le matin le groupe Ciel et Terre à 10h30 et qui poursuivra un petit peu par un repas tiré des sacs, hein, comme on dit, chacun apporte quelque chose, histoire d'avoir un peu de temps pour préparer l'année prochaine. Donc voilà, ce sera une séance sur le thème, dans le thème général de l'année sur le nom, N-O-M, ce sera une séance sur la dénonciation. Et puis à 17h dans le temple, samedi 14, alors il y aura un événement proposé par la commission Église verte du foyer de l'âme, un dialogue sur le thème frugalité ou sobriété, ferment d'une conversion face aux défis climatiques. Vous avez des affiches dans le temple et dans l'entrée. Un dialogue donc entre le pasteur Laurent Schlumberger, qui est notre voisin, un pasteur à l'église Unie de la Rencontre, qui a été aussi longtemps président du Conseil national de l'Église réformée et de l'Église unie. Et puis Philippe Madec, qui est un architecte urbaniste spécialisé dans la bio-architecture, enfin non, c'est pas exactement le terme, mais vous comprenez ce que je veux dire, et un des co-auteurs du manifeste pour une frugalité joyeuse. Donc voilà, il y aura un échange entre eux deux de leur point de vue respectif sur ce thème, frugalité ou sobriété. Et il y aura en fait, ce sera un dialogue aussi avec une troisième voie, mais une troisième voie musicale, puisque cette rencontre sera ponctuée par avec un ensemble, un quatuor à cordes, l'ensemble Émion, qui est l'ensemble de notre amie Vanessa Jean ici présente, et qui jouera, qui interprétera donc les quatre mouvements du quatuor Rosamund de Schubert. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, bien sûr, n'hésitez pas à inviter aussi vos amis, vos familles, à ce dialogue qui sera d'une remarquable qualité et qui sera lui-même extrêmement fructueux. Donc ce sera samedi 14 à 17h. Dimanche 15, le culte sera présidé par le pasteur Samuel Amédro, qui est l'actuel président du Conseil régional de l'Église protestante unie en région parisienne. Donc, il fait l'amitié de venir. Et dimanche 15, il y aura aussi à 10h30 le catéchisme pour les jeunes de dernière année de catéchisme. Ici aussi. J'ai encore trois annonces à faire. La première, pour vous dire que l'appel du mois de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, est arrivé. Il est sur la table là-bas, au fond. Il vous suffit de le prendre, de le lire, et puis de détacher la petite carte et de l'envoyer ce mois-ci au Cameroun, puisque l'appel du mois est en faveur de nombreux militants d'un mouvement pour la renaissance du Cameroun qui manifestaient pour le droit à la liberté et qui ont été évidemment emprisonnés. Donc n'hésitez pas à remplir l'appel du mois de la CAT. Je vous signale également Le Parole protestante du mois de mai, qui est aussi sur les deux tables du fond, qui est un numéro fort intéressant sur les églises inclusives. Et puis une dernière annonce, oui, pour un appel à des bénévoles pour assurer la prise vidéo des cultes qui sont transmis en direct hein, sur la page Facebook de la paroisse, et puis ensuite les vidéos sont déposées sur le site. Mais voilà, il faut quand même quelqu'un pour installer le matériel, lancer l'iPad tous les dimanches, et l'équipe actuellement est un peu trop petite. Donc si vous êtes d'accord pour une fois de temps en temps assurer ce service, eh bien, je vous invite à prendre contact avec Thomas qui est là-haut dans la galerie et qui redescendra tout à l'heure. Donc merci pour ce service qui est fort utile. Le culte est suivi par un certain nombre de personnes tous les dimanches et il est regardé aussi par des personnes parfois très loin, et c'est un service qui est très apprécié. Alors merci de l'aider à le tenir. Est-ce qu'il y a d'autres annonces, d'autres choses à nous dire? Eh bien alors voici le moment de l'offrande, une offrande qui aide le foyer de l'âme à assurer sa mission. Alors j'espère que vous l'aiderez avec joie et confiance et espérance. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever car nous allons chanter le cantique 266 « Ô Jésus, mon frère ». Recueillons dans la prière d'intercession aussi une dimension œcuménique dans ce culte, puisque c'est une prière inspirée d'une prière du pape François. Dieu de paix, dans la prière, nous faisons place en nous à plus que nous-mêmes. Nous avons essayé tant de fois et pendant des années de résoudre nos conflits par nos propres pouvoirs, par la force de nos bras. Combien de moments d'hostilité et de ténèbres avons-nous vécu? Combien de vies ont été brisées? Combien d'espoirs ont été enterrés? Tant de fois nos efforts ont été vains. Dieu des prophètes, Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, tu nous as créés, tu nous recrées, tu nous appelles à vivre ensemble en reconnaissance, en respect, en entraide. Donne-nous chaque jour la force d'être des ouvriers de paix. Permets-nous de voir tous ceux qui croisent notre chemin comme notre frère, notre sœur. Garde vivante en nous la flamme de l'espérance, afin qu'avec de la patience et de la persévérance, nous puissions toujours opter pour le dialogue et pour la réconciliation. Que ton esprit éclaire le nôtre, et notre conscience et notre lucidité, afin que nous puissions repousser, désarmer la violence qui est en nous, celle de nos mots et de nos mains, et que nous puissions ainsi accueillir celles et ceux que tu confies à notre solidarité, étrangers et malades, endeuillés et découragés, victimes de guerre et soumis à des idéologies menteuses, en Ukraine et Russie, au Liban et en Syrie, en Afghanistan et en Chine, et ici également. Rends-nous sensibles aux paroles et aux gestes qui nous exhortent, afin que notre inquiétude soit transformée en confiance, nos querelles en pardon, en attendant de transformer nos armes de guerre en outils. Renouvelle nos cœurs et nos esprits, afin que nous nous rassemblions, afin que nous nous réconcilions et que notre mode de vie soit toujours celui du shalom, salam, paix. Et c'est ainsi que nous joignons notre prière à celle du Christ, en disant à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Une exhortation, un petit extrait d'un texte de la pasteur Francine Garrillo. Paix à vous, dit le ressuscité à ses disciples. Tout est dans sa manière de donner. qui n'efface pas notre responsabilité, mais relance notre vitalité à sauver ce qui n'est pas du monde, mais le travail dans ses arcanes les plus profondes. La paix ne sera jamais que l'appel à tresser serré ce fil de lumière qui relie les êtres au-delà de leurs ombres à la haute clarté qui éclaire leur dignité, veille sur leur liberté et nourrit leur fraternité. Frères et sœurs, la paix qui est en vous peut être enfouie, peut être oubliée. La vie qui repose en vous comme une semence d'éternel, qu'elle émerge et se répande dans toute votre personne, qu'elle vous tourne vers les frères et sœurs humains, libérant en vous des paroles et des actes de vie et d'amitié. Dieu vous bénit et vous garde en son amour. Amen.